Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Politique correct.
Politically?
Politique correct.
Politique.
Évitez.
Serious?
Une production jeune mais dynamique.
Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses. Plus de Chico dans Politique correct. Tigui s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
Ceci est une rediffusion de Politique correct. Joyeuse Pâques à tous!
Acceptez l'invitation. Victor Bout est avec nous. Pour les présentations de mon côté, je vais dire aux gens qu'ils peuvent googler le nom. C'est tout un phénomène. Faites attention à ce que vous lisez. Il y a énormément de choses qui se disent à son endroit. Mais j'ai envie de le laisser se présenter lui-même, Victor Bout. Comment vous décrivez?
C'est le même Victor, c'est normal. Bout, B-O-U-T, en version française.
Comment vous décrivez, vous présenteriez au public vous-même? Vous êtes... un homme d'affaires?
Je n'ai pas un titre spécial. Maintenant, je suis le député de la région de Ulyanovsk. J'ai été élu en septembre passé en cette législative régionale et commencé à travailler avec tous les problèmes que nous avons dans la région. Et j'ai fait tout ce qui est possible d'aider.
Beaucoup de questions sur les situations actuelles dans le monde, notamment ce qui vous touche directement en Russie. Mais avant, une ou deux autres questions sur vous, si vous voulez bien, pour peut-être votre passé, pour que les gens comprennent mieux comment vous vous définissez vous-même. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans l'appareil militaire russe? Je crois que c'est des renseignements qui sont connus. Vous avez travaillé pour l'armée russe à l'époque? L'armée de l'Ouest.
J'ai été officier dans l'armée rouge dans l'Union soviétique, mais je n'ai pas travaillé après les Russie, après les fins de l'Union soviétique.
Vous êtes lancé en affaires assez jeune, si je comprends bien. Vous étiez dans la vingtaine?
Pardon, répétez encore une fois.
When you went to business, vous êtes lancé en affaires... How old were you?
J'ai 22 ans, 23 ans, oui. Okay. Vous avez raison.
Et est-ce que vous êtes d'origine ukrainienne? Ça semble être un mystère un peu, votre endroit pour la naissance.
Écoute, c'est très difficile de résoudre. Nous sommes le même peuple, nous parlons la même langue, nous avons le même territoire dans notre histoire. Et ici, cette séparation plutôt artificielle, oui, peut-être origine de mon nom de famille, ça vient des parties qui sont maintenant dans l'Ukraine, mais l'Ukraine seulement existe même pas centaines d'ans, et donc c'est tout très artificiel, je pense.
Vous vous considérez comme russe à 100%?
Oui, je suis 100% russe.
D'accord. Par la suite, là, on rentrera pas dans ce qui est allégué sur votre personne, Mais il y a énormément de choses qui se sont dites sur votre personne. Notamment, il y avait eu une motion à l'ONU présentée par la France qui vous citait nommément. Les États-Unis avaient fait retirer votre nom quand c'était une question là, de transport d'armes. Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là? Est-ce que vous avez eu une compagnie de transport, ça on le sait, mais est-ce que vous avez déjà aussi transporté des armes dans votre carrière en affaires?
J'avais compagnie de transport aérien, compagnie aérien.
Très grosse.
Nous sommes basés dans l'Afrique, dans les proches médias, Middle East. Et alors, oui, bien sûr, nous sommes été spécialisés de transporter les différents cargos. Et entre-temps, oui, en partie de ça, c'est toujours été des armes, mais c'était tout l'évasion spéciale. Par exemple, j'avais en 94 participé à aider la République française de transporter son contingent quand ils avaient l'opération turquoise pour aider et pour prévenir les génocides dans le Rwanda. Et alors, oui, dans cet avion-là, était une grande opération. J'ai transporté armée française. C'est quoi maintenant? Et quel est le problème de transporter les armes aux des gens? C'est pas les problèmes avec ça. C'est pas interdit. Et pour moi, j'avais mon compagnie privée. Et si j'ai reçu le permis de partir d'un pays et arriver à l'autre, c'était conformément le droit international, complètement légal.
Très bien. Pour ce qui est de la perception que vous avez, vous êtes en politique, vous l'avez dit, vous êtes élu maintenant, et c'est pour un parti d'opposition, si je comprends bien, votre perception du leadership russe en général, pas juste de Vladimir Poutine, comment vous percevez la tête de l'État russe présentement? Êtes-vous satisfait à 100%, à 80% du travail de l'État russe présentement, en général, pas spécifiquement sur la guerre?
Bon, notre président, Monsieur Vladimir Poutine, était arrivé à pouvoir plus que 23 ans au plus. Il a vraiment gagné son respect et même mon propre respect. Pas seulement pour son parole, mais pour son action. Et initialement, les gens pensaient, ah bien, c'est encore quelqu'un qui on va voir. Mais chaque fois que Monsieur le Président, il a dit quelque chose, c'était finalement dans un petit moment réalisé. Et comme ça, il a gagné un respect. Il a gagné un respect non seulement dans le parti qu'il a toujours apporté, même dans les secteurs des sociétés qui ont les différentes options. Et M. Poutine, notre président, toujours très responsable et toujours en train d'écouter tous les côtés et toutes les opinions dans notre société.
Est-ce que vous verriez un leadership différent, une relève pour éventuellement un départ de Vladimir Poutine? Vous l'avez dit, ça fait 23 ans quand même qu'il est là. Avez-vous des personnes que vous verriez lui succéder?
Bon, c'est une question très compliquée. Je pense que oui, nous avons assez les gens qui sont qualifiés d'être en cette position, mais nous avons un vraiment système de démocratie ici, et cette démocratie sera possible d'avoir l'opinion des peuples. C'est le peuple qui décide, le peuple qui va choisir le président de Russie à la prochaine année. Et après 6 ans, nous avons donc l'autre élection présidentielle.
Très bien. Pour ce qui a cours en Israël, j'ai envie d'une question très ouverte et de vous demander quelles sont vos perceptions de ce qui se passe depuis près de 2 semaines avec la bande de Gaza et ce qu'on connaît comme guerre, on peut le qualifier de comme ça, présentement. Comment vous voyez la situation en Israël en général?
Bon, pour comprendre bien qu'est-ce qui se passe exactement dans le secteur Gaza, maintenant, nous devons savoir aussi l'histoire. Je pense que les enfants de ce problème, c'est ça le problème, qui n'a jamais été réalisé les droits des Palestiniens de former son propre État. Même ONU sont décidés que oui, ils ont le droit de former son propre État, mais les dernières 50, 60, même depuis de la guerre deuxième mondiale, c'est jamais été réalisé. Et ça, c'est un des problèmes plus profonds de ce conflit. De l'autre côté, oui, bien sûr, que le Hamas, qui l'a opéré et pratiquement pris le pouvoir dans le secteur Gaza, c'est le groupe très radicalisé, c'est le groupe islamiste très proche à la Muslim Brotherhood, oui. Et ça, c'est vraiment tout ce qui s'est passé, cette attaque, c'est pas bien. Et ni moi, ni les autres gens ici, on ne supporte pas cette forme d'attaque. Mais de l'autre côté aussi, comprendre les conditions dans le secteur Gaza. C'est le plus grand prison dans le monde, dans le ciel ouvert. Okay? Ni les droits à l'entrée, ni les droits sortis, ni les droits importés, rien. Vraiment, ces 3,5 ou 4 millions de personnes-là, c'est pratiquement prisonniers. Et dit ça, les questions. Pourquoi les Occidentaux jamais eu les possibilités de finalement faire le nécessaire que ce conflit entre les Israéliens et les Palestiniens était résolu. Et solution, c'est très simple. Former les États pour les Palestiniens avec son capital en partie de Jérusalem. Ça va résoudre les problèmes et après, tout le monde arabe peut-être pouvait faire en relation et normaliser relation avec Israël. Mais de quelque raison, avec ce système occidentaux, le monde occidentaux et les gens qui décidaient cette politique des États-Unis, des Unions européennes, jamais décidé de réaliser ce plan.
Les relations entre le Hamas et la Russie, à votre connaissance, il y en a. Il y a même des accords dans certains domaines entre le Hamas et le gouvernement russe. Est-ce que vous considérez que ça devrait être davantage?
Écoute, de mon opinion privée, je ne connais pas qu'il y a les contacts officiels entre le Hamas et les Russie. Bien sûr, historiquement, nous toujours été aidés à l'organisation de libération palestinienne. Nous avons bonnes relations avec l'autorité de Mahmoud Abbas. Russie, elle est une section de notre consulat général dans les Gaza. Je pense que nous avons environ quelques mille personnes qui ont nationalité russe, ou sont mariés, ou le quoi, et pour nous, c'est aussi grand problème. D'un côté, nous avons les gens qui sont dans le secteur Gaza, qui ont les nationalités russes, et en même temps, environ 30% de la population d'Israël qui parle russe, qui sont les venus de Russie, et avec eux, nous avons beaucoup de relations, nous avons bien relations avec l'État israélien, et nous avons bien relations avec Palestiniens.
Au-delà des Palestiniens, on parle régulièrement de l'Iran, qui serait carrément derrière, selon certaines théories, les attaques qu'on a vues il y a une dizaine de jours. Vos connaissances des relations irano-russes, je sais que vous parlez persan. Quelques mots sur la posture iranienne actuellement, les dangers que ça peut laisser présager et la Russie avec ce qu'elle pourrait faire, peut-être pour calmer les ardeurs de l'Iran, parce que là, il y a des relations qui sont plus officielles.
Qu'est-ce que j'ai vu dans cette situation? Quel est l'Iran, l'autorité dans les républiques islamiques d'Iran, était très claire dans son définition. Il est beaucoup fois déjà annoncé, si les Israéliens ne vont pas attaquer ou ne vont pas intervenir et prévenir les conflits. Mais le problème, c'est que les Israéliens toujours voudraient attaquer l'Iran pour une raison à l'autre. Et même ni l'Iran ni Israël, nous n'avons pas la même frontière commune. C'est toujours les dernières 20 ans, c'est toujours la même histoire des menaces de chaque côté. De cette situation, je pense que, comme elle est en train de dire, pour danser le tango, il faut les deux personnes, c'est même ici. C'est pas seulement l'Iran qui doit faire quelques actions pour prévenir un grand conflit, mais à la même temps, Israéliens doivent aussi comprendre cette situation qui est très grave et faire le nécessaire pour prévenir, pour à peu près avoir un moyen de communiquer et prévenir un conflit qui peut-être pourra faire un grand problème pour toutes les planètes.
Il y a des élus américains qui ont appelé, comme Mitch McConnell, carrément à attaquer l'Iran. Et j'ai même des amis qui ont émis ce genre de commentaires-là. Comment pensez-vous que ça pourrait se dérouler une telle attaque, un tel conflit? Est-ce que vous considérez qu'Israël serait capable, un pays de quoi, 9 millions d'habitants, de se prendre, de se porter à l'attaque contre l'Iran et de finir de façon victorieuse?
Bon, le problème de cet conflit sera pas, c'est très difficile de comprendre. Est-ce que Israël va utiliser les armes nucléaires qu'ils ont? S'ils vont attaquer avec l'assistance des États-Unis ou non? Si l'OTAN va intervenir ou non? Mais, comme vous avez bien remarqué, Israël à peu près 10 fois moins petit que l'Iran. Et ça, c'est le grand. Oui, population. Et détermination des gens d'Iran de défendre son pays avec l'attaque d'Israël, c'est aussi, je pense, la même décision que les Israéliens maintenant. Décider de défendre son propre pays.
Même avec l'appui des Américains, ça pourrait être quelque chose qui est violent, assurément. On pense à l'Irak, qui quand même était tombé plutôt rapidement en 2003, ben, en tout cas le gouvernement. Pensez-vous que l'Iran, avec une attaque américano-israélienne, résisterait mieux que l'Irak à l'époque?
Il faut pas faire cette comparaison, première, mais voir même les géographies, ça c'est première. Et le deuxième, voir aussi les capacités de l'armée ou des forces armées d'Iran et aussi de tout ça développement qu'ils sont réussi d'arriver les dernières années. Ils ont aussi la même façon que l'Israël, ils ont en force qui était considérée formidable avant les dernières 2 semaines. Donc, c'est à l'autre exemple qui nous, comme nous sommes avec vous pas très spécialisés de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, je pense de quelque façon, ce sera très difficile pour Israël, même avec Américains maintenant, de faire une opération contre l'Iran. Sinon, ils vont essayer peut-être faire un massif attaque avec les missiles. mais tout le reste, ça va pas marcher.
Une invasion au sol, pour vous, c'est inconcevable, même non. Si les États-Unis sont là.
Pour invadir sept pays de cette dimension comme l'Iran, avec cette géographie, c'est pas le désert, c'est aussi beaucoup de montagnes. Mm-hmm. C'est très difficile. Un Iranien était préparé à cette attaque depuis trentaine d'années au moins. Ils ont formidable réserve des réservistes. Les gens d'Iran avec grande ancienne tradition de résistance, avec discipline, ils vont défendre ces pays jusqu'à la dernière goutte de son sang.
Si malgré ça, les États-Unis et Israël s'engageaient dans une telle voie d'attaque vers l'Iran, et on transpose notre analyse à une plus grande échelle, on pense à la Chine, là-dedans, qui manifeste clairement depuis des décennies que Taïwan, où on produit 80% des microchips du monde, leur revient et doit être raccordé au territoire. Ça pourrait être une opportunité pour eux de finalement aller de l'avant en ce sens-là. Pensez-vous que les dirigeants américains se rendent compte de ça? On voyait Joe Biden hier dire, ou avant hier, c'était à 60 Minutes, on est les États-Unis d'Amérique, on peut être sur plusieurs fronts à la fois, comme si c'était rien. Pensez-vous que ce serait une opportunité pour les Chinois d'aller chercher Taïwan, une telle attaque sur l'Iran?
Écoute, maintenant, les États-Unis sont engagés d'aider l'Ukrainien. Et vous voyez, il n'y a pas de résultat. Ils sont en train de dire que voilà, contre-offensif de l'Ukrainien va regagner son territoire, va gagner dans la guerre, va récupérer tous les territoires que les Russes rentraient, mais ça ne marche pas. Et vous voyez, les États-Unis, et non seulement les États-Unis, mais tous les pays membres de l'OTAN ont trait d'aider l'Ukraine avec l'argent, avec envoyer son armement. Et maintenant, l'OTAN n'est pas plus capable de produire même assez munitions pour artillerie, de continuer ou d'aider les forces armées ukrainiennes, de même continuer à même de défendre. Cet conflit, précisément maintenant, c'est clair pour tous les spécialistes comment ça va terminer. À la même temps, si les Chinois décidaient, bon, ça c'est le temps de regagner cette unité avec cette île de Formosa que nous connaissons comme les Taïwan, bien, où les moyens physiques d'aider Taïwan de défendre contre cette décision des républiques de Beijing. Il n'y a pas. Et donc maintenant, il y a l'autre confirmation que la guerre en les deux fronts ne sera pas possible. Et si vous aidez en ajouter quelques types d'opérations contre l'Iran, c'est vraiment la fin de l'OTAN, les fans de suprématie des États-Unis comme superpower, et c'est vraiment, ça va finir système que nous avons maintenant.
Donc, si je vous comprends bien, ce serait finalement l'opportunité pour les Chinois, ce serait le moment, s'il y a une guerre où les États-Unis s'impliquent au Moyen-Orient, parallèlement à celle en Ukraine, ce serait le moment de se ressaisir de Taïwan.
Bon, idéal. Je pense à soi en différents moments. Imagine, si les Américains décidaient, ils ne vont pas intervenir, ils décidaient, première, il a les problèmes avec la position des États-Unis. Il n'a jamais reconnu l'indépendance de Taïwan. Il a toujours confirmé à les Chinoises que oui, nous avons que comprendre que les Taïwan, c'est les territoires chinoises. À la même temps, il est toujours en train de jouer ce petit jeu d'aider, d'envoyer les armes, de fournir, de faire un scandale et quoi. Et maintenant, en face, et maintenant, États-Unis, tellement nous avons une relation avec la Chine qui, quelque situation où cette relation économique s'est congelée ou frappée, maintenant c'est très difficile de dire qui va souffrir plus, États-Unis ou Chine. Mais je pense que dans les États-Unis, si la Chine considère de faire un blocage des médicaments, de fournir tout ce qu'elles sont consommées dans les États-Unis, ce sera une catastrophe dans les États-Unis. Mais les Chines ne veulent pas ce conflit premier. Ils ont créé des puissiers en politique pour dire les Taïwanais, bien, on va avoir un état du système, vous avez son autonomie, le quoi, mais historiquement, nous sommes la même peuple, nous sommes la même système. Pourquoi pas renégocier, pourquoi pas trouver une résolution de ce problème dans les moyens sans la guerre. Et ça, c'est le problème que je pense que maintenant, États-Unis trouvent n'importe quel prétexte de nouveau commencer un conflit armé pour tous les partis dans le monde où ils trouvent cette possibilité. Première, il y a le lobby des industries qui produisent les armes, oh, ça c'est clair, depuis le Eisenhower, Military Industrial Complex, et tout ce qu'elle dit pour pas oublier l'influence de ça sur les politiques de l'Amérique. Et en plus, par de ça, nous sommes dans les situations où les mondes changent. Il n'y a pas plus un superpower dans le monde qui dirige et qui donne les commandes de tous les autres pays. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle époque où ce n'est pas les blocs divisés en deux comme était entre l'Union soviétique et les États-Unis, formés sous donc groupe. Il y a aussi les troisième petit groupe en non-aligned movement. Mais maintenant, nous comprenons que ce projet de globalisation, c'est pratiquement fini. Que maintenant, il y a beaucoup les centres des régionaux, comment ça se dire,
puissance régionale.
Il y a puissance régionale qui sont bien surformées. C'est les Chine, bien sûr, c'est les, non seulement régionales, mais dans les mondes, la superpower. Aussi les Landes, qui va prendre son place, nécessaire pour Landes. Nous parle aussi dans le plus grand rôle que l'Afrique va jouer dans le futur. Bien sûr aussi les places des Amériques latines. Ouais. Et l'ASEAN de monde États-Unis avec l'Europe. Et donc, c'est mieux maintenant comprendre une nouvelle réalité. Et en face de faire la guerre, en face de faire toutes les destructions qui se passent, en face de faire la guerre des sanctions, en face de fomenter tout ce mouvement, c'est mieux à peu près nous avons les dernières opportunités comme nous sommes part à la même planète, renégocier les nouvelles Yalta Accord et comprendre comment ça va fonctionner et quelles nouvelles conditions. Mais cette fois, nous pouvons pas accepter un hégémonie, comment se dire?
Un hégémon oui. Mondial comme ce que les États-Unis ont été depuis.
Il faut respecter tous les pays, il faut comprendre les lois et les droits de chacun de vivre son propre vie sans cette langue des sanctions, des menaces, et tout cette trick qui sont joués les dernières 50 ans.
Ça, c'est bien compris. Et je pense que ça peut résonner dans l'auditoire. Les gens comprennent bien la game que les États-Unis ont joué. Et le complexe militaro-industriel là-dedans, évidemment, a toujours été très important, comme vous mentionnez, depuis le discours de départ de Dwight Eisenhower. Et ça mène à la question sur la Russie, peut-être parallèlement sur la Chine. il y a des complexes militaro-industriels également. Quelle pression ils exercent sur le pouvoir? Parce que ça peut pas être non plus le paradis versus l'enfer. T'sais, comment vous voyez ce complexe-là pour la Russie principalement et peut-être pour la Chine?
Les grandes différences entre les military industrial complex aux États-Unis et dans la Russie, que notre industrie militaire sont 100%, pratiquement 100% contrôlés par les États, ils n'avons pas la même profitabilité. Et pourquoi? Je veux dire, pour tous les ordres que l'armée russe rentrait de commander, ils ont l'État est établi très petit pourcentage qui dans le coût de production que cette société peut ajouter.
Okay.
Donc l'État pas seulement signe les contrats de l'achat, mais à la même temps il contrôle le coût de cette production. Et il n'y a pas les profits, il n'y a pas les moyens. Même les petites compagnies privées qui participent de jouer un rôle qui est dans les politiques, dans le financement, qui les military industrial complex des États-Unis habitués de jouer.
C'est plus réglementé, si je comprends bien. Et il n'y a pas autant de possibilités d'exportation. Il y a quand même des exportations d'armes chinoises, d'armes russes également. Ouais,
l'exportation aussi, c'est les États. C'est les tous les bénéfices, tous les moyens qu'il a gagné pour exporter sont directement envoyés vers le budget de notre fédération.
Donc, c'est pas un fonctionnement à la Raytheon ou Northrop Grumman. Boeing.
Non, c'est complètement différent.
Okay.
Bon, ici, notre gouvernement, elle décide, voilà, ça c'est le programme, ça c'est les moyens que vous besoin, on vous finance tous les nécessaires comme les investissements pour vous acheter le nouvel équipement, et voilà, toutes les productions en achat en cet prix fixé.
OK. Vous avez mentionné les sanctions américaines qui, effectivement, ont discrédité certaines de leur un peu de leur aura, pour le dire comme ça, à certaines occasions. J'aimerais qu'on en parle un peu davantage. Sur la Russie, à notre dernière discussion, vous me disiez que ça n'a presque pas d'effet sur l'économie russe. La situation économique de la Russie présentement, à votre avis, est certainement un peu affecté au moins par ça. Comment vous qualifieriez les effets des sanctions américaines? Et est-ce que ça a vraiment amené à des pays comme en Inde, le BRICS, parler d'une monnaie commune? C'est clairement, ça découle de ces politiques de sanctions-là économiques des États-Unis?
Ah bon, première, Russie réussit de développer son économie même dans cette sanction. Oui, bien sûr, il y a l'effet de ces sanctions et se trouve plus des marchés des consommateurs. OK. Bien, il y a aussi quelque chose qui nous rentrait d'acheter vers les troisièmes pays la même provenance de l'Europe ou la même provenance des États-Unis. Donc ça, c'est les marchés. Mais à la même temps, cette action donnait opportunité des compagnies russes d'acheter tout ce qui est les compagnies occidentaux sont vendues en prix très bien. Et je ne pense pas qu'ils ont plus opportunité de rentrer et à couper la même place qu'ils ont dans les Russies, dans les marchés russes de production qu'ils avaient avant de cette action. Nous avons maintenant, après les 2014, rentré être exporteur des produits alimentaires très grands. On réussit de produire tout ce qui avant nous rentrait acheté à l'Europe. Nous entrons aussi produire la nécessaire technologie. Nous avons assez gens qualifiés de faire exactement ce que nous avons besoin maintenant. Bien sûr, ce n'est pas notre choix. Nous voudrons avoir une bien relation avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'Europe, avec tous les autres pays. Mais position des gouvernements des États-Unis, position des gouvernements du Canada, position de tous les pays qui sont membres de l'Union européenne, ou bien on veut vous détruire. Et c'est avant, elle n'est jamais officiellement acceptée cette idée, mais maintenant on dit oui. Imagine ce qui s'est passé quand les Merkel s'est dit oui, nous signons cet accord de Minsk à 2015, sauf pour gagner, donner le temps des Ukrainiens de les armer. On n'a jamais eu vraiment pensé que ça va marcher. Imagine maintenant les crises de confiance. Nous, dans la Russie, plus pas pouvons faire confiance à toutes ces, pas seulement les paroles, mais pour, même pour les documents. Si les États-Unis signent quelque chose, ou les garanties qu'ils vont faire ça, réaliser, ou ils vont dire non, sauf on a signé, mais ça c'est... avec les Russes, vous pouvez signer n'importe quoi.
Salut tout le monde, c'est Emmanuel de la Claire Ensemble. Vous écoutez CJMD 96.9, ma gang de bas canadiens.
Ça, c'est qui détruit.
Les... Très vite, une longueur d'avance.
CJMD. SMIL.com.
Écoute ça.
Vous écoutez CJMD 96.9.
Ceci est une rediffusion de Politique Correct. Joyeuse Pâques à tous.
On passe à notre invité qui se passe de présentation pour bien du monde, mais je dirais qu'au Québec, pour ma génération et d'autres, il serait utile peut-être de préciser que Conrad Black, qui est un ex-magnat de la presse internationale, un financier, historien, commentateur politique et plus, on pourrait passer un long moment sur sa présentation. Il nous fait le plaisir de s'entretenir de différents sujets avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Black, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ah bonjour, mon plaisir.
C'était quand votre dernière entrevue en français ou au Québec de mémoire, ou dans la région de Québec aussi? C'était-tu quand vous étiez propriétaire du Soleil?
Probablement, oui. Oui, ça remonte plusieurs années, certainement.
Votre français est bon quand même, c'est surprenant. Juste précision au besoin, ça va me faire plaisir de vous fournir un petit appui en français, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas nécessaire. Parce que ça a été bien appris. Ça a été quoi, à l'Université Laval, la meilleure ressource pour l'apprentissage du français?
Oui, c'était là. Et à part de ça, j'étais engagé dans les affaires de journaux au Québec, pas seulement Le Soleil, mais Le Quotidien de Chicoutimi, Le Droit à Ottawa, et plusieurs journaux moins grands que cela, mais... J'ai recherché mon volume sur Maurice Duplessis en traversant la province entière. Je pense que je connais tous les contrées du Québec, d'Abitibi jusqu'à la Gaspésie.
Vous avez été dans les mines aussi. Vous avez été très présent dans le paysage politique aussi. Et là, on a un regain devant les yeux du Parti québécois. C'est timide, mais ça fait un peu parler de souveraineté. En tout cas, ça vient à mes oreilles. Votre vision de ce phénomène-là, est-ce que c'est vraiment en fin de vie? Ça a été annoncé régulièrement. Et aussi du peuple français en Amérique, tous les peuples finissent par se métamorphoser. À quelle échelle ou échéance vous verriez le peuple québécois se mélanger?
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Carrément devenir un peu comme au Nouveau-Brunswick. Voyez-vous ça arriver? Parlons du Parti québécois et de l'avenir des francophones en Amérique du Nord.
Bon, alors, la survivance du fait français à l'Amérique du Nord, je pense qu'on peut le prendre pour acquis. Je sais qu'il y a des incertitudes dans l'esprit de plusieurs de mes compatriotes francophones, mais je pense qu'ils se sous-estiment un peu en pensant qu'il n'y a aucune question de leur survivance culturelle et de leur vitalité. Quant au Parti québécois, comme vous le savez, ces partis fluctuent au Québec un peu comme en France. Il y a la montée, la descente de partis de noms différents. Honoré Mercier avait brièvement le Parti national. M. Duplessis a fondé l'Union nationale du mouvement réforme des libéraux avec le vieux Parti conservateur du Québec, dont le secret était sa génie, partagé par ses successeurs choisis, Paul Sauvé et Daniel Johnson, père, de faire voter ensemble les conservateurs et les nationalistes. C'est très difficile, ça exige une virtuosité extraordinaire pour un politicien de faire ça, mais ils étaient dans cette classe, ces trois hommes. Malheureusement, ils sont tous morts. Au poste comme premier ministre du Québec, prématurément dans le cas de M. Sauvé et M. Johnson. Mais le Parti québécois, ça semble que je ne veux pas trop simple ou banal ici, mais ça semble a été on a fait déchirer par le CAQ d'un côté en proposant surtout un programme de prospérité et autonomiste, mais pas séparatiste. Et de l'autre côté, le Parti solidaire, solidarité, j'oublie son nom exact,
Québec solidaire,
carrément séparatiste. Alors, ça a déchiré un peu, selon mes observations, le Parti québécois, un peu comme l'Union nationale elle-même était déchirée entre les libéraux et les péquistes dans le temps de M. Jean-Jacques Bertrand.
À la fin. Intéressant.
Incidemment, j'ai l'impression que ce n'est pas possible maintenant pour les séparatistes de gagner un référendum parce que le gouvernement du Québec, après la descente des taux de naissance, la sécularisation, c'était nécessaire pour garder leur position dans le Canada entier. D'agréer l'arrivée de nombreux immigrants de d'autres côtés de la francophonie internationale comme Haïti, Maroc, Liban, etc. Alors, à cause de ça, ces gens sont arrivés pas très intéressés aux nationalistes québécois. Alors, je crois que le CAQ sait qu'un référendum ne passerait pas. Alors, elle se contente si je peux le dire, opprimer la langue anglaise un peu, mais ça se concentre avec un grand succès qu'il faut saluer sur son programme économique. La prospérité du Québec sous ce gouvernement est très impressionnante. Et le reste du Canada a beaucoup d'apprendre là-dessus.
Ah bon, on vient d'avoir des statistiques qui montraient que les faillites depuis la COVID, ça se concentre au Québec d'une façon surprenante. Je voulais justement vous demander votre appréciation générale du gouvernement de François Legault. J'ai l'impression que une certaine sympathie de votre part. Faites-vous des liens avec, j'imagine que oui, avec Duplessis, justement cette capacité de rallier nationalistes et conservateurs. Mais comprenez-vous que les conservateurs se sentent délaissés par François Legault, quand même?
Je ne suis pas certain. Évidemment, c'est un homme très compétent. Et je crois que vous avez raison qu'il y a certaines similarités, disons, avec la technique de Duplessis et Paul Sauvé et Daniel Johnson, père. Mmh. Mais c'est un ancien ministre péquiste, comme vous le savez. Ouais. Je pense que son cœur est plus nationaliste. Je crois qu'il... Il ne s'intéresse pas tellement au fédéralisme. Les chefs de l'Union nationale ont cru tous dans le Canada, mais avec une répartition considérable de pouvoir à l'intérieur du Canada, surtout en faveur du Québec. Et c'était Duplessis qui a gardé cette option d'indépendance pour le Québec, même s'il ne l'a pas favorisé lui-même. Mais il a dit toujours qu'il y avait toujours cette possibilité. Et c'est nécessaire de le garder en réserve. Mon impression, c'est que M. Legault est plutôt séparatiste, mais reconnaît qu'au moment actuel, ce n'est pas faisable.
Très bien. Question sur deux partis d'opposition à la fois. Pensez-vous que le Parti libéral a sonné son arrêt de mort? C'est terminé. Et qu'est-ce que vous dites du Parti conservateur? Est-ce qu'il y a des chances, ne serait-ce qu'avec ce nom-là?
Je dois me prononcer absolument bouleversé par la chute du Parti libéral. La seule chose absolument constante dans l'histoire politique du Québec depuis la Confédération, c'était que le Parti libéral était toujours fort. Jusqu'à 1897, les conservateurs étaient ils ont réussi mieux que les libéraux, mais les libéraux étaient là. Mais après 1897, avec Marchand, Parent, Gouin, Taschereau, et depuis avec Le Sage, Bourassa, Charest, le Parti libéral était toujours fort. Il y avait le vieux règle de peu, si vous voulez. 20% étaient non francophones et libérales. Et 20% étaient les fédéralistes convaincus, francophones. Alors, les libéraux ont commencé avec 40% des électeurs. Et maintenant, ce n'est qu'un parti anglophone.
Et allophone.
On a quitté. Et je crois que le secret pour revivre une opposition sérieuse est de fusionner les libéraux et les conservateurs.
Ah bon? J'ai pas l'impression que nécessairement Éric Duhaime qui vient d'arriver a ça en tête. Quelques mots sur sa présence dans le jeu à date. Il a quand même rehaussé de belle façon la chose, mais est-ce que c'est un plateau? Sinon, on peut espérer quand même de plus grands gains sans la fusion avec les libéraux?
Et franchement, je ne connais pas les sondages courants. Pourriez-vous...
J'ai le dernier.
Juste me donner une idée.
J'ai le dernier, M. Black. J'ai le dernier devant moi. Juste devant moi, j'ai le dernier en liste. 34% pour la CAQ, 22% pour le PQ, Québec solidaire à 17% devant les libéraux qui sont à 14% et 12% pour le Parti conservateur du Québec.
Vraiment, c'est un tableau très nationaliste. Ça indique que les fédéralistes sont en retrait au Québec. Est-ce que c'est ça votre perception aussi?
Avec la CAQ, j'ai l'impression que non, c'est pas si nationaliste. C'est sous ce blason-là, mais justement, on peut l'oublier un peu et se préoccuper d'autres choses, supposément d'économie. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec vous sur les succès économiques de François Legault. Je le vois fermer des possibilités de développement, exemple minier pour le pétrole. On n'a même plus le droit d'explorer. Il y avait un projet de méthane au Saguenay pour lequel, pendant qu'il était dans l'opposition, il était très enthousiaste. Je le vois réglementer toutes sortes de choses aussi et jamais en enlever. Mais bon, il y a cette aura-là, effectivement, et ça permet de susciter un peu de fibre nationaliste, mais pas très fervente. Donc, il y aurait un référendum là, demain matin, tu sais, ce serait assurément plus que perdant. Je dirais qu'on reviendrait à des scores des années 80, probablement.
Bon, je partage entièrement votre avis qu'au plan des tuyaux et l'énergie en général, le gouvernement du Québec, comme le gouvernement fédéral, sont aveugles. Et, nous devons avoir le pétrole et on va dépendre sur cette source d'énergie pour un bon bout de temps encore.
Exact. Parlons du fédéral, justement. Il y a une unanimité, ben générale, mais là, bon, sur la guerre en Ukraine, qui règne à Ottawa, qui a, selon moi, mené directement à la disgrâce de l'ovation il y a quelques jours. Je sais que vous êtes conservateur, vous appuyez Pierre Poilievre, mais là-dessus, des milliards à un régime corrompu, pourquoi? Pour combattre les Russes, qui sont pas si hostiles que les Chinois, à coup d'Ukrainiens. Je sais que vous avez appuyé à l'époque la guerre du Vietnam. Vous êtes, vous avez un sens d'aller à contre-courant, mais j'ai bien de la misère à vous imaginer dans cette unanimité actuelle sur la guerre en Ukraine. Est-ce que Pierre Poilievre est à la bonne position sur l'Ukraine présentement, selon vous, M. Black?
Je crois, mais je pense qu'il veut aider les Ukrainiens, mais comme beaucoup du monde, il cherche maintenant une solution. C'est évidemment le temps de trancher la question. Si les Ukrainiens possèdent vraiment, en réalité, la compétence de repousser les Russes d'où ils se trouvent maintenant, si oui, il faut le faire tout de suite. Sinon, c'est le temps d'organiser une paix effectivement sur les lignes qui sont là maintenant, un peu comme la Corée. Mais je crois que ça serait une bonne solution pour tout le monde, parce que les Russes, malgré leur agressivité, qui est à critiquer, franchement, c'était outrancier sur leur conduite. Mais les Russes, M. Poutine aurait dit à la population russe, bon, on a gagné, nous avons renforcé notre position, la Crimée, etc. Et du côté ukrainien, une fois pour toutes, absolument, catégoriquement, la légitimité de l'Ukraine comme un pays indépendant et souverain est assurée et garantie par tout le monde, par l'OTAN et par la Russie et par la Belarus. Mais bon, il y a quelque chose pour tout le monde et il faut terminer la guerre. Je pense que c'est ça, en effet, ce que tous les partis à Ottawa favorisent. Je pense qu'il n'y a personne là-bas qui demande qu'on continue indéfinitivement d'envoyer des milliards de dollars d'assistance à une guerre qui ne bouge pas.
Des centaines de milliers de morts en quelques mois. Il y a là des chiffres pires que le Vietnam, justement, sur une dizaine d'années.
C'est plus simple à régler. Le Vietnam était une guerre de guerrilla, ce qui est très compliqué. Ici, il y a au moins les lignes de bataille distinctes. Alors, c'est plus facile. Je ne le simplifie pas. Ce n'est pas un cadeau, une guerre, n'importe quelle guerre. Mais il y a cette certitude de frontière et de sphère d'influence, si vous voulez.
Avez-vous l'impression que si Vladimir Poutine avait eu des plus grands succès, l'OTAN était menacée de pour une prochaine étape? C'est ce qu'on invoque régulièrement côté de Joe Biden, Justin Trudeau? Ou c'est ça, c'est plus la propagande qu'autre chose?
Je ne suis pas entièrement saisi la question.
Est-ce que vous pensez que si on n'arrête pas Vladimir Poutine au Donbass, sa poursuite pourrait l'amener, je sais pas, juste jusqu'aux portes de Paris, là, j'exagère, mais tu sais, la Pologne serait menacée, des pays de l'OTAN seraient menacés si...
Non, je ne crois pas. Je pense que...
C'est exagéré.
Il faut reconnaître que la Russie est en quelque part un tigre de papier.
Ouais.
Ça a produit brut global moins que le Canada. Ce n'est pas une super puissance. Je pense qu'il n'y a aucun doute, absolument aucun, que s'il y avait une invasion de Pologne comme il y avait à l'Ukraine, l'OTAN entier réagirait férocement. Et l'OTAN, pris comme une entité complète, a trois fois, cinq fois la puissance de la Russie.
Autre question en politique canadienne, mais qui va nous mener à la politique américaine. L'immigration massive, j'imagine que vous êtes d'avis qu'il manque, de main-d'œuvre, il manque d'humains en Occident. Mais bon, est-ce que la façon de procéder actuelle est optimale? J'imagine que la réponse est non. Votre candidat, je pense, aux États-Unis est Donald Trump. Et ici, Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour juguler les deux problèmes à la fois, c'est-à-dire le manque de main-d'œuvre et, bon, une immigration débridée qui, en fait, incontrôlée?
Bon, alors, quant à l'immigration au Canada, je suis généralement en faveur de la politique de l'admettre en grand nombre, mais ce qu'on manque, c'est le logement. Dans le passé, il y avait toujours, évidemment, beaucoup d'immigration au Canada. C'était absolument nécessaire, pas seulement pour peupler ce grand pays, mais aussi de nous donner une solidité, une masse capable de se faire reconnu comme un pays indépendant vis-à-vis les États-Unis. Alors, je suis en faveur de ça. Franchement, nous sommes tous des immigrants, comme on dit. C'est un cliché, mais c'est vrai. Par le passé, les gouvernements de M. Saint-Laurent, par exemple, il y avait toujours cette politique d'assurer qu'il y avait logement adéquat d'accommoder les nouvellement arrivés. Maintenant, il y a cet déséquilibre qui a produit une inflation vraiment onéreuse pour tout le monde, presque tout le monde, quant à le prix de logement des jeunes anciens de l'université commencent leur vie, se marier ou l'équivalent, mais il n'y a pas de logement pour eux. Alors, ce niveau d'inflation n'est pas tolérable. Et évidemment, c'est très dangereux pour le gouvernement à Ottawa. Je pense que si Justin Trudeau vraiment pense qu'il sera le premier ministre du Canada depuis Laurier de gagner quatre fois successivement, il rêve en couleur. Hein? Mais je pense qu'aux États-Unis, c'est tout simplement un scandale, et tout le peuple le sait, d'admettre 7 millions de gens illégalement, la plupart des destitués, sans aucun doute, la majorité sont des gens sympathiques, mais absolument des gens sans capacité de travailler utilement. Et parmi eux, évidemment, il y a des quantités de drogue et des gens qui sont, pour dire le moins, pas désirables.
Les cartels sont heureux.
Il faut avoir une frontière, d'avoir un pays. Et ce qui se passe au sud des États-Unis maintenant, c'est plutôt comme les dernières années de l'Empire romain, juste l'arrivée des barbares. C'est pas une frontière du tout. C'est absolument outrancier.
Ça donne des campements dans toutes les grandes villes. Même là, des villes démocrates commencent à se plaindre de la chose. Est-ce qu'un mur qui serait terminé serait assez? Qu'est-ce que Trump pourrait faire pour rectifier la chose? Ne serait-ce que, j'imagine, vous allez me dire, envoyer le signal que c'est assez, mais Outre ça.
Alors, comme vous le savez, j'ai connu M. Trump depuis 25 ans. Et il me téléphone parfois, pas exactement, je ne prétends pas du tout que je suis intime de lui, mais je le connais. Et je pense qu'il va premièrement refaire ce qu'il a fait avant, quand il était président. Il va compléter le mur, comme on dit. Et je pense que tous les gens qui sont entrés illégalement, qui avaient violé les droits des États-Unis, une fois établis aux États-Unis, ils l'expulseraient. Les autres, il y aura un programme de les naturaliser graduellement et d'une façon organisée, mais avec la fermeture de la frontière, à part de l'admission d'approximativement 1 million d'immigrants chaque année, légalement, ce qui est la politique des États-Unis. Mais M. Trump a remarqué dans son premier terme qu'il a voulu changer pour une méthode similaire à la nôtre, l'immigration par mérite, par utilité anticipée pour la société américaine et pas juste les gens qui prétendent être soit de parenté avec des immigrants déjà arrivés, soit des réfugiés de tyrannie. Il y en a plusieurs, sans aucun doute, mais pas toute la population de la Mexique.
10 000 personnes.
Ou le Venezuela, c'est pas tout le monde.
10 000 personnes par jour, ça peut pas être exactement le flot qu'on souhaiterait, effectivement.
C'est un acte de suicide national. Et l'électorat américain en sait.
Pensez-vous que Joe Biden, c'est terminé pour lui? C'est une impression qui est de plus en plus...
Oui, je crois que les chefs et les puissances à l'intérieur de son parti vont persuader le président que c'est vraiment le temps de prendre sa retraite. Les démocrates, ça ne sera pas facile pour eux de prendre un nouveau personnage et lui élever jusqu'au point d'être un candidat sérieux. Et il faut se débarrasser pas seulement de Joe Biden, mais le vice-président aussi,
qui réussit.
On n'est pas capable.
Il réussit à être moins populaire que Joe Biden.
Et le Parti démocrate n'importe leur candidat pour des positions nationaux. Ils ont le fardeau très difficile d'expliquer, d'excuser les fiascos nombreux de ce régime.
C'est
pas seulement l'immigration, par exemple. L'économie n'est pas fameuse non plus.
Exact. La violence a doublé dans...
Choquant. Absolument choquant. Le taux de crime... Plusieurs des plus grandes villes du monde sont effectivement, si je peux employer l'expression, les shooting galleries.
Chicago est peut-être plus sécuritaire que bien des villes au Moyen-Orient.
La moitié de Chicago est un no-go area.
Vous avez bien connu d'ailleurs la zone. Puis bon, les aspirants, c'est vrai, tu sais, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, ça sera pas facile. Donc, Trump a des bonnes chances. C'est pas pour rien que les sondages sont favorables.
Trump est formidable. Il a une armée de suivants de 70 millions de gens. Il commence avec plus que 40% de l'électorat. Et le Trump que beaucoup de monde a détesté n'existe plus.
Plus discipliné.
Le Trump qu'on a détesté est un bonhomme bavard, plein de braggadocio, un bully, comme on dit, un homme sans un sens de fair play, si vous voulez.
Ouais.
Et ce Trump a été remplacé par quelqu'un qui est bien plus discret, plus mesuré, on sait comment, et à part de ça, est, comme on dit, un underdog. Il est opprimé par un système de justice absolument corrompu. Tout le monde sait que ces allégations contre lui, cette procuration, est absolument fausse et partisane. Et le peuple américain le sait. Alors, un homme qui est comme ça, qui fait son combat politique contre la corruption et l'abus de la position de procureur. C'est un homme naturellement populaire. Et ce Trump est bien plus formidable comme candidat que le Trump des dernières deux élections présidentielles.
Il reste qu'il y a un Washington permanent. Lui, il appelle ça la swamp ou il appelle ça le deep state. C'est une réalité et vous avez eu des informations en ce sens-là.
Oui,
vous savez de qui on parle.
La semaine dernière, l'establishment de Washington est absolument paralysé par la peur de son retour.
Pensez-vous qu'il va leur faire subir le même sort que lui a subi? Il l'a évoqué. Je pense pas que c'est une bonne idée, personnellement, même, de l'invoquer. Faut que ça s'arrête, ça, des persécutions politiques, d'instrumentaliser la justice comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est de la rhétorique pour exciter sa base ou il est sérieux avec des persécutions une fois élu de ses adversaires?
Encore une fois, pourriez-vous reformuler votre question?
Les persécutions comme lui subit,
oui.
Avec de l'instrumentalisation de la justice, weaponization of justice.
Non, je pense, incidemment, je suis tellement âgé que j'ai écrit dans le Sherbrooke Record, notre premier journal quotidien, qui existe toujours, incidemment.
Okay.
Oui, aux années, ça remonte 50 ans, que le danger d'empêcher, comme on dit, M. Nixon, était que ça serait quelque chose que les partis trouveraient désormais irrésistible. Et c'est ça que lentement est arrivé. Les empêchements de... Incidemment, il n'y a aucune preuve, après 50 ans, que M. Nixon a commis un crime. Plusieurs de ses lieutenants, oui, mais lui-même, non. Mais il est un grand président, à part de ça. Mais depuis, l'empêchement, translation littérale, Clinton est absurde. Absolument absurde. Ouais. Évidemment, ce sont des pratiques pas semblables, dignes d'un président avec une jeune femme comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose pour enlever le président, le chef d'État.
Exact.
C'est absurde. C'est une idée de pèlerin. Les deux soi-disant procès de M. Trump au Sénat étaient absolument une farce. Une farce. Et on sait maintenant que ce qu'il a demandé du président de l'Ukraine, c'est absolument raisonnable. C'est apparent maintenant que les Bidens, père et fils, ont pris 5 millions chacun de pots de vin.
Mais Burisma.
C'est la conduite assez sérieuse. Je suis le biographe de Duplessis, je suis assez philosophe au sujet de mœurs politiques.
Ouais.
5 millions pour à ce moment-là, le vice-président des États-Unis, 5 millions pour son fils, passe pas la rente.
Entre autres, hier, on apprenait un autre 250 millions pendant la campagne présidentielle. Tu sais, les allégations pleuvent, mais est-ce que Trump devrait, une fois au pouvoir, arrêter ça? Dire à un procureur qui nomme, même s'il est supposé d'être indépendant, de pas se lancer là-dedans, est-ce qu'il faut que ça s'arrête à Trump? Est-ce que Trump sera capable de faire ça, d'arrêter ce cercle vicieux-là?
Je crois. Je pense qu'il faut redéfinir quelque peu ses idées. Il y a la tendance maintenant de traiter cette procédure de soumettre le président à un procès dans le Sénat comme un vote de confiance ou non-confiance dans le système parlementaire. Mais évidemment, c'est pas ça. La Constitution exige que ça soit un crime équivalent à trahison ou acceptation d'un pourboire. D'être corrompu matériellement. Mais j'ai l'impression de lui, il n'est pas revanchiste comme tel.
Okay.
Il a dit dans la campagne de 2016, par exemple, il y avait un slogan,
Lock her up.
Exactement, lock her up, de mettre Mme Clinton en prison. Mais une fois arrivé, il a refusé même de nommer, d'avoir son procureur général, de nommer un conseil spécial, procureur spécial. Et je pense que Donald lui-même n'est pas très revanchiste, il est philosophe. C'est un ancien combattant de la guerre financière de New York. Et il c'est pas un boy scout, lui, hein, mais il n'est pas obnubilé ou traumatisé par un peu de rough stuff, comme on dit. Mais je pense qu'il essaierait de changer la pratique et de désincentiviser l'avenir de recours constamment à ce
cercle vicieux.
Cette escalation absurde.
Très bien, c'est bien relevé pour Hillary Clinton. Mais qu'est-ce qui fait le plus peur à l'establishment de Donald Trump, vous croyez? Parce que quand même, son mandat a été juste la renégociation des accords de libre-échange. Assez incroyable pour le pays. L'économie allait bien. Qu'est-ce qui fait si peur? Il a investi dans le Pentagone. Il a mis des milliards supplémentaires dans l'armée. Puis
les services. Oui, mais même avec tout cela, les généraux, les amiraux avaient échoué terriblement dans la question de missiles hypersoniques.
Ouais.
Les États-Unis sont en arrière de la Chine et même de la Russie. Et gardez à l'esprit, les États-Unis ont un produit brut national 10 fois la Russie. Ces pays ne sont plus le moindrement comparables comme force dans le monde. Mais je pense que dans ce domaine, s'il reviendra, M. Trump changerait d'une façon un peu draconienne le haut commandant des forces armées. Il était très déçu finalement de ses généraux et amiraux.
Il ne gênait pas pour le dire non plus.
Exactement. Et bien, la conduite du général Milley est absolument scandaleux, à mon sens.
Milley qui a averti les Chinois qu'il n'y aurait pas d'attaque. Parlant des Chinois, Trump a été plus hostile envers eux, puis c'est eux, si on regarde le PIB, effectivement, ça se traduit en puissance, c'est eux la menace. Il a été plus hostile envers eux que quiconque. Même Joe Biden n'a pas osé défaire certaines mesures qu'il avait prises envers eux. Est-ce que la Chine a corrompu une partie de Washington, à votre avis?
Je pense que non. Il y avait évidemment les épisodes particulier comme la liaison pas très impressionnante, pour dire le moins, du représentant Swalwell avec son amie chinoise qui est une espionne.
Feng.
Exactement, Feng. Ah, bon, la politique est toujours quelque chose à rire là-dedans. Mais heureusement, il n'était pas suffisamment important qu'il n'y avait pas d'intelligence très intéressante pour elle, je crois. Mais en fin de compte, la Chine n'est pas un pays si puissant que les États-Unis. Et vous avez touché sur quelques points. C'est très corrompu. De toutes les institutions chinoises, seulement les forces armées reçoivent un peu de respect. On ne peut pas croire, pas un chiffre, pas une parole du gouvernement ou des sources officielles de la Chine. Et c'est finalement une dictature assez sévère. Comme histoire du développement d'un pays, c'est absolument un succès mirobolant, comme un défi, un rival vraiment pour les États-Unis. Je pense que ça ne serait pas plus sérieux que l'URSS ou l'Allemagne nazie avant ça.
Fascinant de parler de politique américaine avec vous. Vous êtes un ex-magna des médias quand même. Je voudrais faire une petite question en terminant là-dessus. Vous étiez dans la presse écrite, c'est presque mort. Si vous aviez, vous étiez dans la trentaine à nouveau, vous prenez contrôle de, on va appeler ça Hollinger, j'ai lu là-dessus beaucoup, mais c'est complexe. Vous investiriez probablement pas dans les médias, ou si c'est le cas, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui a envie d'investir là-dedans? Comment vous voyez le domaine des médias en 2023?
C'est difficile. Il faut juger, je pense, la gestion, la direction des compagnies. Et ces grandes compagnies multimédia aux États-Unis, surtout celle de mon ami M. Murdoch.
Oui, oui.
Quand il y a une direction si habile, il faut faire le pari, prendre le pari sur ça, je crois. C'est à eux de juger quand entrer, quand sortir de ces médias différents. C'est devenu, comme votre question implique, très compliqué de juger comment ils vont évoluer. Maintenant, les journaux peuvent faire un peu d'un retour à cause des abonnements digitaux.
Okay.
Ça remonte un peu. Mais c'était là la raison que j'ai quitté ce commerce, parce que j'ai vu l'arrivée, l'approche au moins de l'Internet, et évidemment, ça serait très difficile à faire quelque chose avec ça. Mais la plupart de ces compagnies de l'Internet ne sont pas très rentables non plus. Et
c'est tellement morcelé.
Exactement. La fragmentation du marché est extraordinaire. Mais je crois que si on veut parier dans ce domaine, il faut mettre l'argent avec la direction que donne la confiance. Mais ces gros conglomérats américains, Time Warner, Sumner Redstone, Viacom, Paramount, hein? Ce sont des compagnies fortes. News Corporation avec Murdoch.
Bien diversifié.
Ce sont très fortes.
Diversifié. Parlant de Rupert Murdoch, pensez-vous que Fox est réellement à vendre? Voyez-vous Elon Musk acheter la chose? comment va Rupert Murdoch à votre connaissance? Est-ce qu'il est tanné d'être dans la controverse aussi?
Maintenant, il est plus conservateur. C'est un homme qui est très traditionnel. Il aime les journaux, lui. Il a gardé ses journaux. Il a vendu Fox, le film, pas le réseau de nouvelles à la télévision. Mais il a vendu ça. Il a vendu la programmation de son réseau et. Il a gardé juste les livres, les journaux, Fox News. Mais quand même, il a beaucoup d'argent. C'est une grande compagnie qu'il a bâtie, juste un petit journal provincial à l'Australie. C'est très difficile de les juger. Et Musk, quant à Musk, je pense qu'il a des mains pleines de la persécution dirigée contre lui par le régime. Et à part de ça, franchement, Twitter, c'est pas un succès fou au plan financier.
Non, mais ça a perdu. 43
de milliards, c'est beaucoup pour quelque chose qui ne fait pas de l'argent.
Ça a perdu la moitié de sa valeur. Conrad Black, c'est un grand plaisir de vous avoir à l'émission. Je vous remercie, je ne veux pas abuser de votre temps. Juste une petite dernière pour la route. Comment vous portez-vous? Et je me demandais où vous logez maintenant. Êtes-vous à Toronto? Êtes-vous en Floride?
La plupart de l'année à Toronto. Et par de ça, je suis en Angleterre. Je suis toujours membre du Parlement, comme vous savez. La Chambre des Lords.
Ben oui, vous êtes Lord.
Oui. Okay. Je suis un baron. Un peu de respect, monsieur.
Certainement. Et un grand merci.
Je vous remercie. C'est un plaisir toujours de faire la connexion encore avec le Québec. Je suis né à Montréal. Je suis dans mon cœur, je suis toujours Québécois.
C'est vrai, ça?
Oui.
C'est très apprécié. À la prochaine.
Okay, bonjour.
Merci beaucoup. Conrad Black dans Politigui Correct à 17h05. On va s'arrêter parce qu'évidemment, on est en retard dans la publicité. Je vois Chico qui a des réactions. On vous donne ça au retour de cette courte pause. Merci pour les commentaires.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.